Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable.
Existe-t-il des solutions alternatives à la destruction des écosystèmes par les labours et les apports de fertilisants chimiques, ainsi qu'à la déforestation, pour trouver des espaces à cultiver? C'est la question à laquelle Christian de Carnet-Carnavalet tente de répondre dans son ouvrage « Biologie du sol et agriculture durable, une approche organique et agroécologique ».
Qu'est-ce que c'est qu'une approche organique et agroécologique ?
Une approche organique, ça veut dire que l'agriculture est agroécologique, c'est respecter l'écologie des sols, c'est-à-dire la diversité des espèces qui s'y trouvent et la manière de les nourrir.
Ce qui veut dire que ça va un peu à contre-courant, on va dire ça entre nous, de l'agriculture industrielle conventionnelle telle qu'on la connaît, où on apporte beaucoup de chimie sans se préoccuper grandement de l'organique et du reste.
Oui, c'est exactement ça. Le sol pour l'agriculture chimique conventionnelle est un support inerte, tandis que la nature nous montre que le sol est un support biologique où il y a une vie extraordinaire, beaucoup plus importante que la surface de la terre. Donc l'agriculture telle qu'elle devrait se pratiquer et qu'elle commence à le faire doit s'occuper de cette vie organique, de cette vie biologique des sols.
C'est-à-dire que si on met des produits, entre guillemets, chimiques, comme on le fait, on nourrit la plante par perfusion, et si on nourrit le sol avec de la matière organique, et si on respecte le milieu de la faune et la flore intrinsèque au sol, on le nourrit de manière normale.
Oui, une perfusion, ça c'est pour les grands malades, dans les hôpitaux, mais en agriculture normale, effectivement, ce sont les matières vivantes, donc bactéries, les champignons, qui décomposent les matières organiques et qui refont les cycles naturels qui existent depuis des millions d'années et qui libèrent donc tous les minéraux dont les plantes ont besoin pour se nourrir. C'est aussi simple que ça.
Et donc votre livre parle de ça justement. Donner envie aux paysans, aux agriculteurs et autres maraîchers de respecter leur sol, de le nourrir, de faire en sorte qu'il devienne non pas un support, mais un élément de vie de la plante qu'ils cultivent.
Oui, en ce sens que les plantes ont leurs racines dans le sol. Et depuis 400 millions d'années, elles se sont associées aux bactéries et aux champignons qui y vivent pour pouvoir se nourrir. Donc on n'a pas d'autre issue que quand on regarde un paysage, qu'on voit des forêts, des landes, des prairies, elles vivent en complète harmonie, tous ces végétaux vivent en complète harmonie avec la microbiologie des sols. Donc un agriculteur doit absolument apprendre que le sol est un allié et que si on le nourrit correctement, c'est-à-dire que si on donne à manger à 6 milliards de bactéries et de champignons qui s'y trouvent, les plantes vont pouvoir pousser toutes seules quasiment, sans engrais, sans apport extérieur. Et en plus, toute cette microbiologie des sols va favoriser la protection phytosanitaire des plantes. Donc ça, c'est l'élément capital.
Elles sont plus résistantes, elles attirent moins les insectes.
Elles sont beaucoup plus résistantes, oui. Donc les insectes viennent sur une plante en mauvaise santé ou qui est gorgée d'eau. Donc une plante nourrie avec de la matière organique et en association avec les bactéries et les champignons va se nourrir à mesure qu'elle a besoin. Donc elle va prendre au fur et à mesure. Elle ne va pas être gorgée, gavée, elle ne va pas être obèse. Donc une plante obèse en mauvaise santé attire des insectes. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bactéries et les champignons produisent tous les antibiotiques qu'on achète en pharmacie. Donc elles produisent quantité d'éléments qui sont susceptibles de donner aux plantes une meilleure résistance. Ce sont des médicaments que les bactéries et champignons fabriquent.
Alors comment on peut, imaginons que je sois agriculteur ou que je sois simple amateur avec mon jardin, mon potager, et puis j'ai cédé aux sirènes des rayons des grandes surfaces avec des produits, on va dire, plus chimiques et toxiques qu'autre chose, et qu'aujourd'hui j'ai envie de changer. Que dois-je faire ?
Eh bien, arrêter d'acheter, on les met à la poubelle et à ce moment-là, tous les résidus de culture, c'est-à-dire une fois qu'on a un plant de tomate dans votre potager, vous avez fini de ramasser les tomates, la plante, on la découpe en petits morceaux et on la laisse sur le sol ou on en met sur un tas pour en faire du terreau. Le gazon, quand on coupe son gazon, on l'épand dans les massifs en fines couches pour qu'il puisse aller fumer. Tous les résidus de la cuisine, quand on va éplucher ses légumes aussi, il faut les mettre en terre. Il faut acheter de la matière organique sinon. Le gros secret, c'est mettre de la matière organique sur le sol, ce qu'on appelle une litière permanente. Donc il faudrait avoir en permanence 5 à 10 cm de matière organique sur le sol pour que tous les écosystèmes se mettent en place.
Ce qui veut dire qu'un sol nu est un sol fragilisé.
Un sol nu est un sol qui meurt. En ce sens qu'une bactérie va vivre quelques secondes, quelques minutes, Un champignon, il y en a 45 000 espèces dans les sols, des champignons microscopiques. Il va vivre 8 jours. Donc si ces petites bêtes-là ne trouvent pas à manger, eh ben, elles sont comme les humains, elles meurent. Mais il y a une cadence beaucoup plus rapide. Donc un sol nu, où il n'y a pas de racines qui sont mortes, où il n'y a pas de feuilles qui sont tombées, c'est quelque chose de catastrophique. Oui, c'est vraiment des cercueils pour la matière vivante des sols.
Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait un potager au cordeau, avec des rangs de carottes, des rangs de radis, de salades, vous voyez, le méticuleux travail humain, qui désherbe à la main chaque soir son lopin de terre, le tue.
Oui, s'il n'a pas fait des apports de fumier avant sa culture, ou à l'automne, en hiver, quand il n'y a rien. Il faut respecter cette quantité de matière organique au mètre carré pour que ça marche.
Si je vous comprends bien, il y a moins d'efforts à faire. On réutilise ce qu'on consomme, donc on ne jette plus, on ne remplit pas nos poubelles de déchets verts. On améliore notre sol en faisant des économies. Je pense que votre livre, il faut que tout le monde le lise pour pouvoir s'en convaincre.
Mais dans votre jardin, quand vous faites vos tailles de laurier rose, de bambou, de cyprès ou autre, il faudrait avoir un broyeur pour broyer tout ça et en faire un mulch. Donc l'outil du jardinier, c'est le sécateur et le broyeur. On met sur la surface du sol et après ça, ce sont les vers de terre et les autres bestioles qui vont ameublir le sol et faire tout ce qu'il faut.
Donc les gens qui détruisent par le feu leurs déchets végétaux, c'est une hérésie. En plus de risquer de mettre le feu à la pinette d'à côté pour ceux qui habitent dans le sud et pour ceux qui habitent dans le nord, de gaspiller en énergie de la matière organique qui ne sert plus à rien, c'est idiot.
Complètement. Le feu est une hérésie totale. C'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter immédiatement, quelle que soit la volonté ou l'orientation qu'on lui donne. La matière organique doit être mise par terre. C'est la règle de base. Nourrir le sol. Et alors, au niveau de l'agriculture mondiale, ça fait des quantités astronomiques de tonnage de matière organique qu'on va laisser sur le sol, qu'on ne va pas exporter ni mettre à la décharge. Donc, ça permet de mettre aussi du carbone dans le sol. Donc, le carbone, au lieu d'être dans l'atmosphère et qu'il fasse tous ces gaz à effet de serre, va être stocké dans le sol. Donc, ça aussi, c'est une excellente chose.
L'ouvrage de Christian de Carnet-Carnavalet, Biologie du sol et agriculture durable, est paru aux éditions France Agricole.